Bonjour à tous. Deuxième jour de notre série consacrée à l'économiste le plus célèbre, mais peut-être aussi le plus mal compris, John Maynard Keynes. Son nom ressurgit à chaque crise et charrie avec lui l'espoir d'un retour de la croissance, comme au lendemain du krach de 1929, lorsque Roosevelt lance le New Deal. Les États-Unis et la Grande-Bretagne connaissent alors des niveaux de chômage historiquement élevés, et c'est une théorie révolutionnaire de l'emploi que va proposer l'économiste britannique. Des analystes qui pourraient nous aider aujourd'hui à repenser la lutte contre un chômage devenu structurel. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture, et c'est l'heure keynésienne d'Entendez-vous l'écho. Pour parler de Keynes et du plein emploi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités, Sylvie Ribaud, en duplex de Strasbourg, professeure à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse et coéditrice d'une histoire de la pensée économique publiée chez Pearson, et Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Sylvie Ribaud et Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Alors, on va commencer par ça.
Mais on pourrait pas faire un petit effort et essayer de travailler un peu ?
Jamais aucun Lachaunais n'a travaillé.
Depuis 4 générations.
Les gens, ça a l'air de les agacer qu'on ne travaille pas.
Est-ce que j'ai l'air agacé, moi, parce qu'ils travaillent ?
Au fond, Juliette, qu'est-ce que ça peut faire qu'on ne travaille pas ? Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur.
C'est l'évidence. Le repos de quelques-uns met en relief le travail de tous.
Un drôle de paroissien, le film de Jean-Pierre Mocky de 1963, dans lequel la vieille famille aristocratique Lachaunais préfère brûler ses meubles pour se chauffer plutôt que d'exercer un emploi. Un clin d'œil pour entrer dans la pensée des économistes classiques pour qui le chômage est le résultat d'un choix, Jean-Marc Daniel.
Oui, pour les économistes classiques, les chômeurs sont victimes d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils n'acceptent pas en réalité un salaire qui soit conforme à leur efficacité, à ce que les économistes classiques appellent leur productivité marginale. Alors, la théorie a été formulée sous diverses formes. Keynes, lui, s'attachera surtout à dénoncer la forme qu'on attribue à Jean-Baptiste C, c'est-à-dire l'offre crée sa propre demande. Il n'y a pas de problème, normalement, dans l'économie. Tout individu qui le souhaite trouve du travail, et ne serait-ce que parce que quand il fournit un travail, en regard, on lui fournit sous forme de salaire l'équivalent pour acheter ce qu'il vient de produire. Et donc, à la fin des fins, tout travail a suscité à la fois une production et un revenu à même d'acheter cette production. Et donc, l'équilibre se fait naturellement. Mmh. Donc, pour les classiques et les néoclassiques, le chômage, c'est véritablement des gens qui n'acceptent pas le niveau de salaire en conformité avec leur efficacité.
C'est l'idée, Sylvie Ribaud, dans la vision des penseurs classiques, que si le marché fonctionne normalement, si le salaire est à son niveau d'équilibre, alors il n'y a aucun chômage.
Alors, si on parle des vrais classiques, si on parle des classiques du 19e siècle, oui, c'est assez exact. Les classiques à la Mocky sont effectivement des économistes qui vont dire que le chômage n'existe pas. Autrement dit, un chômeur est un faux chômeur. Les choses deviennent quand même un tout petit peu plus compliquées au début du 20e siècle, c'est-à-dire qu'on va bien reconnaître que des individus peuvent être au chômage. Parce qu'il existe des syndicats, parce qu'il existe des rigidités sur le marché du travail, du type des contrats de travail de long terme, etc. Et émerge alors un deuxième type de classique, des économistes qui vont considérer que il peut exister du chômage, autrement dit on n'a pas affaire à des faux chômeurs, mais que ce chômage est en réalité dû à toutes sortes d'imperfections. Et c'est ce que Keynes va pointer. Pour lui, il existe une autre forme de chômage que ce chômage qui est dû aux rigidités.
Alors ces imperfections, on peut rentrer un petit peu dans le détail. Sylvie Rivaud, vous parlez effectivement des rigidités. C'est par exemple quand l'intervention de l'État entraîne des rigidités, quand il impose cet État un salaire minimum par exemple.
Absolument. Ou le pouvoir de marché des syndicats, ou bien même simplement le fait que quand on négocie un contrat de travail, on ne le négocie pas que pour l'année en cours, on le négocie pas que pour une période, et donc on met du temps à renégocier les salaires à la baisse, même quand on serait d'accord pour le faire. Et donc Keynes met toutes ces catégories de chômage dans un seul paquet, qui est celui du chômage volontaire. Et ça, c'est un point pour moi qui est extrêmement important que les économistes ont perdu de vue. Les économistes ne devraient pas s'intéresser aux faux chômeurs. L'individu qui pointe à l'assurance chômage pour avoir un revenu, ou celui qui brûle son bois de chauffage plutôt que d'aller travailler, c'est un faux chômeur. C'est un problème de jury, c'est un problème de bureaucrate, de technocrate, on dirait, mais c'est pas un problème. Ça devrait pas être un problème pour les économistes. Pour les économistes, tous les chômeurs aucun chômeur n'est sur sa courbe d'offre de travail. Sinon, c'est pas un chômeur. Et ça, c'est quelque chose qui vient de Keynes et qui a été totalement oublié.
Alors c'est important effectivement de souligner, Jean-Marc Daniel, que depuis la fin du 19e siècle, ou peut-être le début du 20e siècle, les économistes et les hommes politiques parlent moins de la pauvreté et plus du chômage. Et on assiste à ce moment-là à une prise de conscience progressive du côté des pouvoirs publics qu'il ne suffit pas d'inciter les hommes à travailler pour en finir avec le sous-emploi chronique.
Oui, il y a cette idée, effectivement, d'abord que le travail est devenu de plus en plus complexe, donc il peut y avoir ce qu'on va appeler des formes de chômage frictionnel, il peut y avoir des situations dans lesquelles, effectivement, les gens ne sont pas immédiatement employables. Il y a un problème d'employabilité. On commence à voir apparaître cette notion d'employabilité, c'est-à-dire de capacité d'un individu à exercer les missions et les fonctions que le marché du travail rend. Comme on vient de le dire aussi, il y a le problème qui va être le problème des salaires minimaux, c'est-à-dire, comme vous le dites, il y a la question qui se pose, c'est est-ce que pour atteindre l'équilibre de l'emploi, l'équilibre sur le marché de l'emploi, est-ce que le niveau de salaire qui permet au marché du travail de s'équilibrer ne conduit pas à des niveaux de rémunération extrêmement faibles? Et donc, en fait, est-ce que l'arbitrage implicite qu'il y a derrière ces théories n'est pas entre la pauvreté, les travailleurs pauvres ou le chômage? Et donc, là, encore une fois, Keynes va dire, de toute façon, il y a un équilibre qui apparaît dans l'économie qui dépasse les relations individuelles, qui dépasse les relations que peuvent avoir les uns et les autres au moment où ils fixent la rémunération qu'ils réclament sur le marché du travail. C'est un problème macroéconomique dans lequel on va arriver à des niveaux, effectivement, de chômage involontaire par un équilibre de sous-emploi.
Alors effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Marc Daniel, sur la réponse de Keynes aux auteurs classiques et cette approche holiste de l'économie qu'il défend. Pour Keynes, il n'existe pas de marché séparé les uns des autres, marché du travail, du capital et des biens, mais un vaste ensemble appelé macroéconomie, à Sylvie Rivaud.
Disons que il existe bien des marchés différents. Hein. Il existe bien un marché des biens et services, un marché du travail, des marchés financiers. Mais ce qu'on va entendre par macroéconomie, c'est que les lois qui s'appliquent à l'individu ne s'appliquent pas au système dans son ensemble. Il y a une distinction toute simple. Alors je reprends la terminologie qui est vraiment pertinente de Pierre Decaisse. Pierre Decaisse parle de la distinction entre la baisse locale et la baisse générale des salaires. Alors, s'agissant de la baisse locale, donc là on est en microéconomie, il est tout à fait admis par Keynes lui-même qu'un travailleur isolé peut trouver un emploi en acceptant une baisse de salaire que les autres travailleurs n'acceptent pas. Si je suis au chômage et que j'accepte les mini-jobs, si j'accepte de trouver j'accepte un emploi à 1 euro de l'heure, bon, je trouverai un emploi. Ça, c'est le raisonnement local, microéconomique. Le raisonnement macroéconomique que véritablement initie Keynes, c'est de se poser la question suivante. Si on veut réduire le chômage, la baisse des salaires dont on parle, c'est en réalité une baisse des salaires qui est générale. Tous les travailleurs voient leur salaire baisser dans les mêmes proportions. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au niveau général, si on baisse l'ensemble des salaires, est-ce qu'on est bien certain de pouvoir résoudre le problème du chômage? Et la réponse de Keynes, c'est non. Donc la macroéconomie, c'est la différence entre des interrogations au niveau individuel et des interrogations au niveau global.
Et ce que va montrer, et ce que va s'attacher à montrer Keynes, Jean-Marc Daniel, c'est que les volumes de production et donc l'emploi sont déterminés par la demande globale anticipée. Il faut souligner ce rôle crucial que joue l'anticipation pour Keynes.
Oui, c'est un des déterminants clés de l'investissement. Ce qui est intéressant dans cette distinction qui est entre la micro et la macroéconomie, c'est que Keynes commence à raisonner de façon assez pragmatique et puis dans un raisonnement qui est un raisonnement aussi de comparaison avec les sciences qui l'entourent. Keynes, qui a une formation mathématique, qui connaît la physique, qui est un admirateur un peu rebelle de Marshall, qui a fait des études de thermodynamique, est fasciné par le fait que au niveau de la physique dans les années 20-30, on distingue la situation de l'atome de la situation de la physique mécanique de Newton. C'est-à-dire la mécanique quantique ne permet pas, n'est pas en conformité au niveau de l'atome avec ce qu'on constate au niveau de la vie quotidienne des gens dans la dimension qui correspond à la dimension de l'homme. Et donc il y a cette idée qu'il y a une macro et une microéconomie qui sont pas forcément exactement dans les mêmes règles et dans les mêmes lois. Et donc au niveau de la macroéconomie, un élément qui est clé, c'est effectivement la demande anticipée, et c'est la façon dont les investisseurs globalement finissent par déterminer leur investissement avec cette espèce de situation un peu étrange, magique, qui intrigue tout le monde et qui intrigue encore beaucoup d'économistes et d'étudiants en économie, c'est qu'à la fin des fins, il y a égalité entre l'épargne et l'investissement au niveau macroéconomique, alors qu'au niveau microéconomique, l'investissement et l'épargne sont déterminés par des agents qui n'ont pas de raison d'être en contact les uns avec les autres.
En quoi il y a égalité entre l'épargne et l'investissement, Jean-Marc Daniel ?
Alors c'est un résultat comptable, c'est-à-dire que on part du niveau macroéconomique, on écrit l'égalité entre l'offre et la demande sur laquelle s'appuient tous les économistes, et puis ensuite on écrit le fait que la production devient le revenu, ce revenu devient la consommation et l'épargne. Et donc, par des simples règles algébriques de calcul assez simples, on arrive à la conclusion que l'épargne moins l'investissement plus le déficit budgétaire est égal au solde de la balance des paiements courants. Mmh. Et donc, si on résume ça de façon très très simple, en fait, on dit il y a égalité entre l'épargne et l'investissement, et cette égalité est fascinante, parce qu'encore une fois, spontanément, il n'y a aucune raison de penser que les décisions des épargnants soient correctes. Liés intègrent les idées des investisseurs. Et donc, les investisseurs, eux, ils pensent la demande anticipée, ils réagissent en fonction des taux d'intérêt, mais surtout, ils pensent par rapport à la demande anticipée. Les épargnants, eux, ils pensent aussi par rapport à une projection dans l'avenir et aussi des taux d'intérêt. Et au total, on a cette égalité qui se traduit par un équilibre qui va conduire à un équilibre de sous-emploi.
Alors si je veux résumer, alors que pour les classiques, le chômage s'explique par un dysfonctionnement sur le marché du travail, pour Keynes, ce chômage s'explique par un dysfonctionnement sur le marché des biens et services, un marché sur lesquels les intérêts individuels et collectifs divergent, Sylvie Rivaud.
Je vais être plus précise. C'est pas tellement des dysfonctionnements sur les marchés des biens et services. Jean-Marc Daniel avait tout à fait raison de mettre l'accent sur la question des anticipations. Dans la théorie générale, il y a deux types d'anticipations qui sont distinguées, bien nettement. Il y a les anticipations de court terme. Ça, c'est les anticipations que font les entrepreneurs à propos de leur volume de vente. Et là, pour ceux parmi nous qui ont fait un peu d'économie, Keynes fait une hypothèse qui est beaucoup plus radicale que ce qu'on appelle aujourd'hui les anticipations rationnelles. Keynes fait l'hypothèse, carrément, à court terme, que les prévisions sont parfaites. Autrement dit, il évacue complètement les erreurs de prévision de vente, les stocks de produits invendus, etc. Pour se concentrer sur un problème, qui est celui des anticipations de long terme. Autrement dit, les anticipations qui sont formulées par les investisseurs et qui sont formulées par des signaux qui transitent sur les marchés financiers. Et donc, in fine, oui, le chômage involontaire, il est bien dû à l'insuffisance de la demande effective que l'on remarque, que l'on observe sur le marché des biens et services. Mais cette insuffisance de la demande qui est anticipée par les entrepreneurs provient des dysfonctionnements que l'on peut identifier sur les marchés financiers, c'est-à-dire cette incapacité des marchés financiers à coordonner l'épargne et l'investissement à leur niveau de plein emploi. Alors ça a terriblement gêné les économistes après Keynes, ça continue à beaucoup perturber les économistes, c'est le fait que le futur soit indéterminé. C'est vraiment un des messages de Keynes. Le futur est indéterminé. Et puis, la situation qu'on vit aujourd'hui en termes de PIB, d'emploi, etc., est en grande partie le résultat de ces anticipations de long terme. Et donc, le futur dépend aussi de ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce qu'on a aujourd'hui dépend également de nos anticipations sur le futur. C'est assez fort comme résultat.
Une incertitude que l'on retrouve aujourd'hui. On en parle beaucoup des choix que l'on peut faire, des choix économiques que l'on peut faire aujourd'hui en situation d'incertitude. Mais alors, face à ce marché qui ne permet pas d'éviter le chômage, pour Keynes, l'État doit intervenir. Et c'est ce qu'il propose dès les années 20, dans un contexte justement de fort chômage en Grande-Bretagne. Il soutient alors le parti libéral de Lloyd George, qui brigue le pouvoir après 5 années de gouvernement conservateur de Stanley Baldwin. En pleine campagne électorale, Keynes est coécrit avec Hubert Anderson un texte publié le 11 mai 1929.
Ce n'est pas par accident que le gouvernement conservateur nous a plongé dans le bourbier où nous nous trouvons. C'est le résultat logique de sa philosophie. Vous ne devez pas poursuivre le développement des équipements de téléphonie, de l'électricité, car cela ferait augmenter le taux d'intérêt. Vous ne devez pas vous hâter de financer les routes et le logement, car cela consommerait le potentiel d'emploi dont nous pourrions avoir besoin dans les années à venir. Vous ne devez pas rechercher le plein emploi, car cela produirait de l'inflation. Vous ne devez pas investir, car comment pourriez-vous savoir si cela rapportera? Vous ne devez rien faire, car si vous faisiez quelque chose, cela signifierait seulement que vous ne pouvez pas faire autre chose. La sécurité d'abord. La politique consistant à maintenir 1 million de chômeurs a été poursuivie depuis maintenant 8 ans sans écueil. Pourquoi risquerions-nous un changement? Pas de promesses que nous ne pouvons tenir. Par conséquent, nous ne promettons rien. Voilà ce qu'on nous sert. Ce sont là des slogans de dépression et de décadence, les pusillanimités, les obstructions et les stupidités liées à un dépérissement de toute vitalité administrative. Négation, restriction, inactivité, tels sont les mots d'ordre du gouvernement. Mus par ces attitudes, nous avons été obligés de boutonner nos gilets et de retenir nos respirations. Les peurs, les doutes et les précautions d'hypocondriaques nous enferment. Il n'y a aucune raison pour ne pas se sentir libre d'être audacieux et ouvert, pour ne pas expérimenter, pour ne pas agir afin d'accroître le champ des possibles. Au-dessus et contre nous, debout sur notre chemin, il n'y a que des vieux messieurs engoncés dans leur redingote qui doivent être traités gentiment avec une pointe d'irrespect et être renversés comme des quilles.
Jean-Marc Daniel, l'idée de Keynes, c'est déjà de lutter contre le chômage par un vaste programme de dépenses publiques.
Oui, c'est-à-dire que face à ce chômage, puisqu'il écarte l'idée que la solution va apparaître naturellement au travers de la baisse des salaires et d'un fonctionnement libéré du marché du travail, il faut qu'il propose quelque chose d'autre. Ce qui est intéressant dans ce qu'il va proposer, c'est d'abord que il est libéral de tradition. Hein. Sa mère est maire de Cambridge au titre du parti libéral, et il ne sera jamais travailliste, alors que dans son entourage, des gens comme James Mead, qui est un des membres clés, des pivots du Cambridge Circus, c'est-à-dire le groupe d'économistes qui l'entoure et dont il est d'une certaine façon le porte-parole, James Mead va être travailliste, va s'associer au mouvement travailliste et va être un des conseillers de l'Atlee. Keynes se définit toujours comme libéral. Et donc, à partir de là, quand il propose une solution d'intervention de l'État, c'est une solution pour préserver les acquis du vrai libéralisme, c'est-à-dire la liberté, la propriété privée, la démocratie. Quand il dit à un moment donné une phrase qui est célèbre, c'est « à long terme, nous serons tous morts », quand on lit le texte où il dit ça, c'est parce qu'il dit que si à court terme on ne fait rien, on va finir par sombrer dans un étatisme de type bolchevique, et à ce moment-là, on sera mort à la fois physiquement, parce qu'on finit toujours par mourir, mais aussi politiquement, éthiquement, moralement, parce qu'il n'y a rien de pire que le régime soviétique. Donc il a une solution, et cette solution, c'est d'augmenter les dépenses publiques et d'augmenter non seulement les dépenses publiques, mais de ne pas financer cette augmentation par des impôts. Alors, c'est pas lui qui est véritablement à l'origine de cette idée. Hein. Cette idée, elle circule depuis un certain temps en Europe, notamment chez un certain nombre d'économistes d'origine allemande. Une de ses forces, c'est d'avoir été en contact aussi avec cette pensée allemande qui est assez mal connue, même à son époque, alors que l'Allemagne a un certain rayonnement intellectuel, et une pensée qui va à laquelle il va être en contact par un de ses amis collaborateurs, qui est Richard Kahn, qui est né en Angleterre mais qui est d'origine allemande et qui va lui faire découvrir cette idée que l'État peut être la solution et pas le problème.
L'État, la solution et pas le problème, mais en même temps, l'objectif de ces dépenses publiques, c'est de stimuler, de faciliter l'investissement privé, à Sylvie Rivaud.
Oui, tout à fait. Mais alors, pour bien comprendre ça, il faut déjà tuer deux ou trois idées reçues qui sont quand même extrêmement fortes. La première idée reçue qu'il faut absolument tuer, c'est que Keynes serait favorable au déficit public et qu'il aurait l'idée que pour résorber le chômage, la contrepartie acceptable, c'est les déficits publics. Ça, c'est quelque chose qui est absolument inexact. Keynes est absolument pas de cette idée-là. Une autre idée reçue qu'il faut absolument tuer, c'est que Keynes serait favorable à l'inflation. L'idée que pour réduire le chômage, eh bien, on n'a pas d'autre solution que d'accepter une inflation grandissante, avec même comme idée corollaire l'idée que l'on puisse créer de l'inflation et que cette inflation créée pourrait résorber le chômage. Ça c'est totalement anti-keynésien. Et puis la dernière idée reçue qu'il faut absolument tuer, c'est l'idée que Keynes serait favorable à des politiques, ce qu'on a appelé en France, mais que en France, les politiques de stop and go. Cette année, je relance l'économie. Dans 2-3 ans, au contraire, je fais des politiques restrictives pour ralentir l'inflation. Ces politiques discrétionnaires de court terme, Keynes y est tout à fait opposé.
Il est vrai qu'on accole souvent ce mot de keynésien sur des politiques qui ne le sont pas forcément. Mais sur la question du déficit public, Sylvie Rivaud, comment Keynes compte-t-il financer ce grand plan de dépenses publiques dans les années 20, sinon par le déficit ?
Alors, je parlais d'anticipation tout à l'heure et la clé pour résoudre le problème, c'est justement les anticipations. Il y a une citation des années de 1931-32 de Keynes où il dit « Quel que soit ce dont le chancelier de l'échiquier, donc l'équivalent du Premier ministre en Grande-Bretagne, quel que soit ce que le chancelier de l'échiquier rêve, c'est vraiment le mot qu'il utilise, dream, pour l'an prochain, ça deviendra réalité. Si le chancelier de l'échiquier rêve de relance, on aura la relance. Si le chancelier de l'échiquier rêve de déflation, on aura la déflation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si le chancelier de l'échiquier rêve d'avoir de la reprise économique l'an prochain, eh bien, il met en place un programme de travaux publics, par exemple. On relance l'emploi, on relance, dans un second temps, la consommation. Ça génère du revenu, ce revenu est soumis à l'impôt et donc les dépenses publiques sont auto-financées par l'augmentation des recettes de l'État grâce à l'augmentation de la production. Si au contraire le chancelier de l'échiquier souhaite de la récession, de la déflation pour l'an prochain, bah, il s'y prend exactement de façon symétrique, c'est-à-dire il comprime sa demande sous forme de dépenses publiques, ça comprime la demande globale, ça comprime le revenu global et ça réduit les impôts.
Et vous nous dites, Sylvie Rivaud, que Keynes n'est pas favorable à l'inflation, mais il est tout de même favorable à une inflation peut-être modérée, une hausse modérée des prix. Je voudrais vous entendre, Jean-Marc Daniel, sur ces différents arguments de Sylvie Rivaud.
Ce qu'on vient de dire, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Keynes a conscience d'un certain nombre de problèmes par rapport au déficit et au déficit public. Le multiplicateur tel qu'il le décrit sur la base des travaux de Richard Kahn, hein, le multiplicateur qui apparaît dans la théorie générale, apparaît sur la base, effectivement, initialement d'un déficit. Alors après, vous avez le déficit ex ante, celui qu'on constate au départ, et puis le déficit ex post, puisque effectivement, une fois qu'on est passé d'une société de sous-emploi à une société de plein emploi, elle produit plus, et comme elle produit plus, eh bien, les recettes fiscales sont plus élevées. Néanmoins, et Keynes a conscience qu'une société peut pas s'installer et ne peut pas avoir comme seule réponse durable au chômage le déficit et l'endettement. D'ailleurs, Joan Robinson, qui fait partie là aussi du cercle de Cambridge, du Cambridge Circus, insiste là-dessus en disant si pour sauver le capitalisme et éviter le chômage, on doit sombrer dans la dette publique et l'endettement infini, et le capitalisme est condamné.
Et c'est pour ça explique que ce mécanisme ne fonctionne pas à l'infini, précisément, cet effet multiplicateur.
Donc, cette idée qu'effectivement, ça ne peut être qu'un moyen de relancer une machine, de changer la nature de l'équilibre pour atteindre un équilibre de plein emploi. d'emploi, mais un équilibre qui ne repose pas exclusivement sur le déficit budgétaire. D'ailleurs, dans le chapitre 22 de la théorie générale, il va plus loin. Il dit en fait qu'il faut raisonner, alors qu'il a raisonné en équilibre auparavant dans le livre, il fait une note sur le cycle où il introduit l'idée qu'en fait, il faut raisonner, ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce qu'il a dit précédemment, il faut raisonner en cycle et non pas en équilibre. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont mis en avant cette contradiction. Quant à l'inflation, effectivement, à la fois il est fasciné par des gens comme Silvio Gesell, qui est un personnage assez étrange, qui est un, je ne sais pas si vous en avez parlé dans l'émission précédente sur l'inflation et
non,
sur les théories
monétaires. Non, allez-y, présentez-nous-le.
Pardon ?
Non, on n'en a pas parlé.
C'est un Allemand qui a vécu en Argentine, représentant, enfin il est ministre des finances, commissaire du peuple aux finances de la République socialiste soviétique de Bavière dans les années 1919-1920, et il a écrit un livre où il fait de l'inflation effectivement le moyen de relancer l'activité économique et la monnaie fondante. Donc Keynes rend hommage à cet individu à la fois par son goût du paradoxe, il y a chez Keynes, il faut bien dire s'il y a un goût du paradoxe, et aussi par cette idée que il y a des idées originales, à condition qu'elles soient bien utilisées et qu'elles ne sont pas dans la caricature, qui peuvent être recherchées aussi bien dans l'utilisation d'une politique monétaire active que dans l'utilisation d'une politique budgétaire active. Derrière tout ça, pour moi, il y a cette idée qu'il faut que le gouvernement donne une réponse aux populations qui sont détruites par le chômage, autre que attendez, le chômage va disparaître au fur et à mesure que le marché fera son office, et finalement, à la limite, c'est vous qui êtes responsable du chômage puisque vous n'acceptez pas les niveaux de salaire qui correspondent au plein emploi. Donc, il y a chez Keynes cette idée quand même que la politique budgétaire et la politique monétaire, c'est de la politique, c'est-à-dire c'est une réponse concrète à des problèmes qui se posent de façon effective à la population.
C'est une volonté de montrer une action volontaire de l'État, Sylvie Rivaud.
Moi, il y a l'idée d'une réponse collective à un problème qui est collectif. Mais s'agissant de politique économique, je voudrais rebondir sur un point qui est vraiment important. C'est que dès le début des années 40, Keynes commence à travailler à ce qu'il appelle la politique de l'emploi en temps de paix. Et donc, pour comprendre les leçons que Keynes a pour nous en termes de politique économique, il faudrait vraiment distinguer les deux scénarios. Il y a le premier scénario, c'est celui des années 30. Qu'est-ce que un économiste peut préconiser à la puissance publique quand le taux de chômage est de plus de 20%, que la production s'est contractée de plus d'un tiers, que les prix ont été divisés par deux, que les salaires nominaux ont baissé d'un tiers, etc. Et ça, c'est ce qu'on connaît de Keynes en termes de travaux publics qui vont de pair avec une politique monétaire expansive. Ça, c'est assez important aussi à souligner, c'est que même pour lutter contre les récessions, la politique monétaire doit être absolument coordonnée avec la politique budgétaire. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième type de réflexion de Keynes, qui sont donc initiés au début des années 40, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la survenue des crises? Et là, il y a des écrits tout à fait intéressants de Keynes. Il écrit, il inonde le chancelier de l'échiquier de mémoranda, et il développe des idées de prévention des crises dans une optique de long terme. Et c'est pas surprenant quand on a en tête sa focalisation sur ces anticipations de long terme qui sont indéterminées. Et donc il met en place des outils du type qu'on a complètement oublié, hein, des outils du type budget de capital, partenariat public-privé, ce qui suppose une part grandissante de la sphère publique dans l'économie pour contrôler le niveau général de l'investissement et empêcher la survenue des crises.
Différents outils qu'on va examiner dans un court instant. Sylvie Rivaud, Jean-Marc Daniel, on revient vers vous dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow, our guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream, with peace and glory ahead. Why should I be standing in line? Just waiting for bread. Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Say, don't you remember? I'm your pal. Buddy, can you spare a
Brother, can you spare a dime? Chante Bing Crosby dans les années 30. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho et nous continuons à redécouvrir l'œuvre de Keynes en compagnie de Sylvie Rivaud et de Jean-Marc Daniel. Alors, on l'a vu, après le krach de 29 commence la Grande Dépression et l'explosion du chômage remet en cause cette notion du chômage, de chômage volontaire qui avait été développée entre autres par Jean-Baptiste Say parmi les économistes dits classiques. Et dans Le Peuple de l'Abîme, publié quelques décennies auparavant, en 1903, l'écrivain Jack London revenait déjà sur les véritables causes du chômage. Écoutez.
Je tiens à préciser que l'impossibilité de travailler est rarement le fait des ouvriers eux-mêmes, mais qu'elle existe parce qu'il y a trop de demandes d'emploi. Si trois hommes sont à la recherche d'un travail, c'est le plus habile qui l'obtiendra. Les deux autres, et leur compétence n'est pas en cause, n'en seront pas moins traités comme des inaptes. Si l'Allemagne, le Japon et les États-Unis devenaient maîtres du marché de l'acier, du charbon et des textiles, il s'ensuivrait un chômage fantastique en Angleterre, et l'on compterait par centaines de milliers les ouvriers qui perdraient leur emploi. Quelques-uns, c'est vrai, émigreraient, mais la plupart auraient à se recaser dans les industries locales restantes. Il y aurait alors un remue-ménage général dans le monde ouvrier du haut vers le bas. Lorsque la situation serait redevenue normale, le nombre des inaptes compterait des centaines de millions de chômeurs supplémentaires au fond de l'abîme. Si, d'un autre côté, toute chose égale par ailleurs, les ouvriers dans leur ensemble multipliaient par deux leur rendement, le nombre d'inaptes resterait ce qu'il est, bien que chaque inapte ait vu ses capacités doubler et dépasser celles des compétents qui l'ont précédé. Lorsqu'il y a trop d'hommes pour le travail qu'il y a à faire, ceux qui se trouvent en surplus sont relégués au nombre des incapables, et sont en tant que tels condamnés à une destruction progressive et pénible.
Voilà un très beau texte lu par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho et qui met en lumière, Sylvie Rivaud, le sort réservé à ceux qui ne trouvent pas de travail dans le système économique qui est le nôtre.
Bon, la situation s'est considérablement améliorée aujourd'hui pour les travailleurs au chômage ou même les pauvres en général par rapport aux années 30. Et les années 30 étaient déjà moins difficiles que ce que les ouvriers britanniques ont pu subir dans les années 20. Il faut effectivement, alors le texte de Jack London est encore plus antérieur, mais effectivement il faut remettre les choses en perspective historique. Les années 20 en Grande-Bretagne sont vraiment différentes de la situation aux États-Unis. Aux États-Unis, les années 20 sont plutôt des années de prospérité, de croissance plutôt équilibrée. C'est en tout cas le diagnostic que fait quelqu'un comme Milton Friedman. Alors qu'en Angleterre, les années 20 sont déjà des années de grandes perturbations économiques, avec un taux de chômage qui est déjà élevé. Et le texte de London fait mention de l'Allemagne. Un des facteurs explicatifs de cette pauvreté, de ce chômage élevé dans les années 20 en Angleterre, c'est déjà la fin du système des talons or tel qu'on l'avait connu jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, dans les années 20, l'Angleterre fait face à une situation économique qui est déjà très très dure, et la crise de 1929 va venir jeter dans la pauvreté extrême des millions de travailleurs. Le texte que vous avez donné en introduction de l'émission, Ken Loach Lloyd George Dewitt, je crois que c'est un texte qui date de 1929, et donc ça montre bien qu'en Angleterre, la question des travaux publics, la question du chômage de masse précède la Grande Dépression. Les années 20 en Angleterre, en Grande-Bretagne, sont déjà des années extrêmement difficiles. Ça, c'est un point important.
Des années difficiles, et du coup, cette année 1929, c'est une année d'élection, mais Lloyd George, du Parti libéral que Keynes défend et soutient, va perdre les élections, et donc ce programme de 200 millions de livres qui était proposé n'aura pas lieu. Jean-Marc Daniel, sur la différence entre les États-Unis et la Grande-Bretagne avant même que la crise de 29
éclate. Je fais trois remarques par rapport à ce qu'on vient de dire. Parce que la citation de Jack London, elle répercute aussi une crainte ancienne, qui est la crainte des ludites, qui est la crainte historique face au progrès technique. C'est l'idée que la quantité de travail dans une société soit une quantité relativement fixe, et qu'au fur et à mesure que cette quantité est assumée par des machines, eh bien, on a des chômeurs.
Mais il faut rappeler que les ludites cassaient leur outil de travail.
Le travail au milieu du 19e siècle.
Au début du 19e siècle.
Et donc, cette idée, elle est toujours présente. Hein. Vous avez toujours cette idée dans la société contemporaine aujourd'hui qu'une des raisons du chômage, c'est le fait que les machines se substituent aux hommes, qu'il y a des robots partout et qu'il y a des programmes politiques qui proposent de mettre des impôts sur les robots pour essayer de les dissuader de se substituer aux hommes, comme si les robots étaient quelque chose qui soit en capacité de se substituer aux hommes. Donc, il y a cette idée qui est une idée récurrente au fur et à mesure que le progrès technique se développe. Par rapport à ça, ce qui se passe effectivement dans les années 20-30, c'est alors aux États-Unis, effectivement, les années 20, c'est les années de la prospérité. Hein. Quand Hoover, qui va être le président de la crise de 29, qui va être balayé par Roosevelt, se fait élire en 1928, il a comme programme de prolonger la Coolidge Prosperity, la prospérité de l'époque de Coolidge, qui est son prédécesseur. Donc c'est plutôt une période assez faste sur le plan économique, et ce qui fait que le retournement et la brutalité de la crise de 29 aux États-Unis va surprendre un peu tout le monde. La troisième remarque que je ferais, c'est qu'on est encore dans des sociétés qui sont des sociétés très rurales, et une partie de la crise, notamment aux États-Unis, va être sur le monde agricole. Et là, les recommandations de Keynes vont avoir assez peu de conséquences. En 1938, Morgenthau, qui est le secrétaire au Trésor de Roosevelt, dit on a réussi en réalité à véritablement colmater la brèche en maintenant des offices agricoles, en imposant des prix à l'agriculture, en dévaluant le dollar. Mais l'augmentation de la dette publique et la politique budgétaire qui nous a été recommandée, notamment par Keynes, n'est pas efficace. Et donc Keynes va répondre, il va envoyer une lettre pour expliquer que c'est parce que il faut aller un peu plus loin. Et puis la dernière remarque, Keynes s'est opposé quand même à des gens, c'est-à-dire il y a eu une réaction, notamment à Ralph Autrey, qui était le responsable, pas le chancelier de l'échiquier, mais le responsable du Trésor. Et en Angleterre, il y a ce qu'on appelle l'opinion du Trésor. Il y a une tradition britannique qui fait que le Trésor émet de la théorie économique. Et Ralph Autrey va faire une remarque, qui est une remarque sur l'idée des travaux, sur l'idée des incitations à générer des travaux au travers de partenariats plus ou moins affichés entre le public et le privé, c'est que on retrouve cette idée que les gens qui sont au chômage ne sont pas forcément les gens qui ont les compétences et les capacités à répondre à la de relance opérée par la politique budgétaire. Et donc Ralph Autrey dit, vous avez de toute façon un chômage qui est en train de se mettre en place, qui est un chômage plus structurel, un chômage qui est d'employabilité, et les politiques budgétaires actives, même s'il y a urgence, ne sont pas capables de répondre à ce problème d'employabilité.
Alors justement, à ce propos, j'aimerais vous faire entendre un extrait de La Comédie du Travail, le film de Luc Moulet de 1988, dans lequel un chef de la NPE, l'ancêtre de Pôle emploi, Morigène, sa meilleure employée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle trouve un peu trop facilement du travail aux demandeurs d'emploi, ce qui menace la survie même de l'agence.
Ça n'est plus possible. Sur 62 demandeurs vus par vous, 50 ont reçu un emploi. Record de France. Tout ce que vous allez gagner, c'est un billet pour une zone dure comme Villerupta. Le trou. Et moi, juste au moment où j'allais être muté au QG, vous comprenez, moi, je suis bon pour la Guadeloupe. Et encore nous, les gradés, on s'en tire. Mais l'huissier, la balayeuse, il se trouve sur le pavé, nous déconferme. Rappelez-vous que nous, on est une troupe importante à l'Agence pour l'emploi. 12 000 unités, c'est autre chose que ceux des acédiques. Et puis à côté, les mines de fer ou la huile blanche, c'est rien du tout. Alors bon, sous prétexte de réduire le chômage, vous allez fabriquer des demandeurs d'emploi. Comme je le disais à notre congrès de Madère.
L'excès en tout est un défaut. Un petit volant de demandeurs d'emploi est nécessaire au bon équilibre de la société.
Voilà, ce directeur d'une agence de la NPE semble désirer ce que Keynes appellerait un équilibre de sous-emploi, Sylvie Rivaud, c'est-à-dire un chômage qui s'installe dans le temps.
Oui. Est-ce que je peux revenir sur la question des États-Unis dans les années 30?
Bien sûr, allez-y.
Merci. Bon, je voudrais rappeler que Keynes fait une tournée de conférences aux États-Unis en 1931-1932. Et dans ses écrits politiques, on trouve quelque chose de quand même stupéfiant. Keynes ne préconise pas une politique de travaux publics aux États-Unis en 1931-1932. Il y a des économistes pour préconiser ça aux États-Unis. Il y a des économistes qui gravitent dans les cercles de Roosevelt, c'est exact. Mais Keynes ne préconise pas de travaux publics aux États-Unis dans les années 31-32. Qu'est-ce qu'il préconise à la place? C'est une politique monétaire expansionniste. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que les États-Unis sont déjà un grand pays, alors que la Grande-Bretagne pèse moins. Donc, l'effet d'une politique monétaire expansionniste est beaucoup plus important.
Rappelez-nous en quoi ça consiste, une politique monétaire expansionniste, Sylvie Rivaud?
Alors, grosso modo, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, alors à l'époque, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, la politique monétaire passe plutôt par la manipulation des taux d'intérêt, sauf en temps de très grande crise, comme aujourd'hui. Quantitative easing, etc. Mais à l'époque, c'est ce qu'on appelle open market, marché ouvert. C'est-à-dire que la banque centrale fait quelque chose d'extraordinaire. Elle crée de l'argent et avec l'argent qu'elle a créé, elle achète des titres financiers et notamment des bons du Trésor. C'est la manière dont c'est la manière qu'on a de financer les travaux publics à l'époque. Donc l'idée c'est de financer ces travaux publics tout en injectant des liquidités dans l'économie.
Et alors, très vite. Et alors, vous parlez d'un deuxième point.
Et alors, le deuxième point, c'est que les États-Unis n'ont pas besoin d'une politique budgétaire. Pourquoi? Parce que justement, les années 20 sont plutôt des années expansionnistes aux États-Unis, et donc le choc de 1929 aux États-Unis, il est très important, mais il n'est pas aussi massif que ce qui se passe en Grande-Bretagne où le choc de la crise de 1929 vient heurter une économie qui est déjà extrêmement fragile, qui est malade. Et donc, il existe des situations où Keynes ne va pas préconiser de travaux publics. Typiquement, les États-Unis du début des années 30. Faut vraiment pas perdre ça de vue.
Alors, c'est important de le souligner. Et pour revenir à cet équilibre de sous-emploi, Sylvie Rivaud, ce chômage qui s'installe dans le temps, c'est l'idée d'un chômage qui ne serait pas dû au comportement des travailleurs, mais aux erreurs des employeurs qui, par exemple, auraient sous-estimé la demande future et par conséquent moins recruté.
Alors, oui et non. Après la théorie générale, Keynes n'emploie plus du tout la distinction entre chômage volontaire et chômage involontaire. Cette terminologie, qui était probablement assez malheureuse, disparaît. Keynes y substitue une autre distinction, qui est tout à fait intéressante, entre chômage structurel et chômage dû à l'insuffisance de la demande. Alors, le terme est un peu long, mais ça dit ce que ça dit. On a d'un côté des imperfections sur les marchés, on a du chômage frictionnel, comme le mentionnait tout à l'heure Jean-Marc Daniel, et puis on a ce chômage qui peut être dû à l'insuffisance de la demande telle qu'elle est prévue par les entrepreneurs. Alors malheureusement, les entrepreneurs, ils se trompent pas. Ils anticipent une demande assez faible. Ils font leur plan de production en accord avec ces anticipations, ils font leur plan d'embauche. Et comme ils embauchent peu et qu'ils produisent peu, eh bien, effectivement, le sous-emploi se réalise. Donc, on est vraiment dans le domaine des, ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Je suis pessimiste. Je prends mes décisions à partir de ces anticipations pessimistes et les actions que je prennent me conforte dans ce pessimisme.
Jean-Marc Daniel, sur cet équilibre de sous-emploi qui est lié finalement au non-ajustement de l'offre et de la demande?
Oui, face à l'équilibre de sous-emploi, encore une fois, au tout début, l'idée, c'est d'augmenter, enfin, de substituer de l'investissement public à l'investissement privé. D'une certaine façon, c'est l'idée du multiplicateur. C'est-à-dire, on consent à augmenter la dépense publique. Et alors, au départ, on l'a fait financer par de la création de monnaie. Puis après, ex post, on réussit à retrouver un équilibre budgétaire grâce à la croissance qui est retrouvée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à partir des années 40, Keynes est en concurrence avec des Keynésiens. C'est-à-dire, son problème, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui se réclament de lui, qui interprètent ce qu'il dit et il passe son temps à affirmer ou à confirmer ce qu'ils disent. Le cas le plus célèbre, c'est la formalisation de ses idées au travers de ce que tous les étudiants en économie ont croisé, qui est le modèle ISLM, qui est fait par un Anglais X et ensuite surtout repris et formalisé, mais un peu plus tard par un Américain, Alvin Hansen. Et la grande question qui lui a été posée d'ailleurs, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans ce modèle? Et donc, il a une sorte de difficulté à maîtriser un mécanisme qu'il a lancé et qui lui échappe d'une certaine façon. On le voit de la même façon lorsqu'il est représentant du Royaume-Uni à Bretton Woods. Il arrive avec des idées assez claires et il s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de gens qui sont disposés à parler en son nom. C'est-à-dire des gens qui disent « mais vous pensez ça, vous voulez ça, en réalité c'est ça qu'il faut faire ». Donc il y a une partie chez lui qui est une partie de repli, je trouve, à la fin de sa vie. Alors que dans la théorie générale, il y a un outil, la politique budgétaire, en tout cas le multiplicateur qui est une réponse à un problème, l'équilibre de sous-emploi. Il y a l'introduction du cycle, et puis dans sa lettre à Roosevelt en 1938, il y a aussi cette idée qui est une idée fondamentale et pragmatique, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser un pays sombrer dans la récession en vous disant « mais patience, le temps va résoudre le problème ». Le temps ne résoudra pas le problème, il ne pourra que l'aggraver.
Alors justement, Jean-Marc Daniel,
Il écrit dans une période où c'est un peu dans l'air du temps l'idée qu'il faut dépenser. Vous savez, alors si je peux me permettre de faire un trait d'humour, il y a un film de Sacha Guitry dans les années 30 qui s'appelle Le roman d'un tricheur, où Sacha Guitry fait dire à un de ses personnages, il y a pire que les chèques sans provisions, ce sont les provisions sans chèques. Et donc, il y a cette idée que, effectivement, la solution, c'est fondamentalement d'initier un processus de dépense, comme on l'a dit, un processus par anticipation, un processus positif.
Mais pour Keynes, la politique de travaux publics ne constitue pas un remède de long terme. Il veut socialiser l'investissement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Sylvie Rivaud?
Ouais, ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment mystérieux. Quand on s'arrête à la théorie générale, c'est un tout petit paragraphe à la fin où Keynes dit bon, finalement le ce qui nous sauvera du chômage chronique et massif, c'est la socialisation de l'investissement. Si l'État pouvait on dit l'État en France, mais le gouvernement pouvait prendre une part grandissante dans l'investissement, ça serait la fin de nos maux. Bon, finalement, c'est assez mystérieux et chacun, du moment qu'on est interventionniste, peut y comprendre beaucoup de choses différentes.
Mais c'est quand même l'idée que les entreprises privées doivent se soumettre aux orientations stratégiques de l'État par le biais notamment de ces partenariats publics-privés.
Alors ça peut être compris comme ça, l'idée que les entreprises privées doivent obtempérer aux initiatives développées par la puissance publique, c'est par exemple le plan en France qui dessine les priorités en termes industriels, en termes d'innovation, et puis les entreprises suivent. Ce que Keynes, et c'est un Britannique, a en tête, c'est quelque chose de beaucoup moins directif. C'est véritablement l'idée que les bonnes idées en termes de recherche et développement, les bonnes perspectives d'innovation sont du côté de la sphère privée et les possibilités de financement sont souvent, très souvent, du côté de la sphère publique par cette coordination entre politique budgétaire et monétaire. Et donc, il y a l'idée, effectivement, d'accorder une part de plus en plus importante à ces partenariats publics-privés. Et Keynes va jusqu'à envisager que 2/3 à 3/4 de l'investissement global de l'économie soit plus ou moins contrôlé par la puissance publique. Mais c'est pas directif. C'est véritablement de l'ordre de la coopération entre le public et le privé.
Qu'est-ce que ces propositions, sur quoi ont-elles débouché, Jean-Marc Daniel, sur le front de l'emploi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer qu'une politique véritablement keynésienne a déjà vu le jour?
Il y a beaucoup de politiques qui se sont référées à Keynes et encore une fois dans les années 30, le bilan est pas très positif. On a beaucoup mis en avant que le seul pays où ça avait véritablement marché, ça avait été l'Allemagne nazie avec un programme d'investissement public massif, mais qui était un programme de réarmement. Après, les politiques keynésiennes, elles sont devenues assez vite, on a parlé de stop and go. Hein. Alors stop and go, c'est une expression au départ un peu vulgaire sur le plan mis en avant par les Anglais. jamais. On stop and go, c'est quelque chose qui était au tout départ.
On alterne la relance budgétaire et l'austérité.
C'était une technique pour limiter les naissances. Mais en réalité, très rapidement, il y a une impasse dans la mise en œuvre des politiques keynésiennes qui apparaît. C'est que quand vous augmentez la demande, vous augmentez effectivement la demande adressée à votre appareil productif national, mais vous augmentez aussi la demande étrangère. Et les politiques keynésiennes qui ont été mises en application, les plans de relance qui se sont référés à Keynes avec l'idée qu'il y avait un multiplicateur et ensuite un équilibrage ex post à partir d'un déficit ex ante, elles se sont heurtées assez souvent à des mécanismes de déficit extérieur et de nécessité de revenir en arrière. Et en 1975-76, au niveau international, l'OCDE a fait faire un rapport par un groupe d'experts qui était présidé par un Américain qui s'appelait Paul McCracken et qui remettait en cause l'héritage keynésien. Alors Keynes, encore une fois, en lui-même, on ne sait pas exactement comment il aurait vécu les années 50-60, ce qu'il aurait pensé de tous les gens qui se sont réclamés de lui. Mais à partir de 1976, le keynésianisme historique référencé comme tel est mis à mal par l'incapacité à résoudre le problème du choc pétrolier.
Il faut rappeler qu'effectivement, Keynes est mort juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sylvie Rivaud, pour conclure, vous diriez qu'une politique véritablement keynésienne est encore à inventer sur le front de l'emploi?
Écoutez, finalement, j'aurais dit oui jusqu'il y a peu. Il se trouve qu'il y a un colloque qui est organisé par l'Université de Paris 2 ce vendredi sur le Brexit. Et donc, j'ai été amenée à travailler sur les plans de relance proposés par Boris Johnson l'été dernier. Et quand on y regarde assez près, autant il y a eu considérablement de plans de relance qui se sont dit keynésiens et qui étaient assez éloignés des préconisations de Keynes, autant ce que Boris Johnson a proposé l'été dernier est très proche de ce que Keynes avait en tête dans les années 30. Alors je vais être très brève, hein, je mentionne trois petites choses. Premièrement, c'est l'ampleur du plan. Il faut que, pour retourner les anticipations pessimistes, il faut être massif. La deuxième chose, c'est la coordination étroite entre la Banque d'Angleterre et le gouvernement. Il y a des rachats de dettes publiques, mais aussi des rachats de dettes d'entreprises. Et ça, c'est absolument original par rapport à ce que font les Européens continentaux. Troisièmement, il y a le slogan de Johnson, build, 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 des grands projets d'infrastructure et puis des politiques régionales pour résorber les disparités entre le Nord et le Sud. Et ça, c'est très keynésien. On l'a oublié, mais ça vient de Keynes.
Il proposait cela en 1937, en effet, cette politique avant, régionale de l'emploi pour résoudre la question des disparités entre le Nord et le Sud.
Absolument, et même le programme de Lloyd George devait... Les disparités entre le Nord et le Sud sont structurelles, historiques en Grande-Bretagne. Et puis, enfin, le programme de chômage partiel de Johnson, c'est-à-dire que vous demandez aux gens de rester enfermés chez eux et vous les rémunérez pour cela. Ça correspond, c'est assez ironique, mais ça correspond à la métaphore des bouteilles remplies de billets que le gouvernement pourrait enterrer. Et c'est une métaphore de la théorie générale. Et ensuite, on paye des chômeurs à déterrer ces bouteilles. Et donc, on retrouve ces billets de monnaie et on les dépense.
Donc, voilà. Boris Johnson a bien lu Keynes.
Je sais pas s'il l'a lu, mais en tout cas, c'est stupéfiant comme expérience.
Et en tout cas, ses conseillers économiques l'ont probablement bien lu et bien compris. Et c'est ce qu'on essaye de...
À la source, en tout cas. Ils sont revenus à la source.
C'est ce qu'on essaye de faire toute cette semaine, comprendre et redécouvrir l'œuvre de Keynes. Le dernier épisode aura lieu demain. Un grand merci à tous les deux, Sylvie Rivaud et Jean-Marc Daniel, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs au livre que vous avez coédité, Sylvie Rivaud, une histoire de la pensée économique chez Pearson. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Un journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
La protection sociale au programme de l'Assemblée cette semaine, financement et déficit hors normes, pour une situation sociale préoccupante, il y avait déjà la reprise inégale en cas, évitera-t-on une population en cas ?
Eh bien, ça devient presque un lieu commun, en tout cas à crise inédite, réponse inédite, 86 milliards d'euros de dépenses liées au Covid et un déficit de 49 milliards d'euros pour la sécurité sociale cette année. Les mécanismes de protection sont durement sollicités et c'est la réponse du gouvernement à la dégradation sociale importante. 1 million de personnes de plus dans la pauvreté, c'est-à-dire qui vivent avec moins de 1000 euros par mois, selon les principales associations. Et puis tous les autres indicateurs s'allument, hausse de 50% 10% des demandes d'aide alimentaire, de 10% des inscriptions au RSA et bien sûr du chômage avec peut-être 1 million d'emplois perdus à la fin de l'année. Pas étonnant de ce point de vue-là que le plan pauvreté d'1,8 milliard d'euros annoncé fin octobre par Jean Castex déçoive les acteurs de terrain, pas de revalorisation des minima sociaux et les critiques sont acerbes. Mesures, pansements déconnectés de la vie des gens, dit ATD Quart-Monde, voire position idéologique, dénonce un collectif de 35 associations.
Et certains plaident déjà pour une adaptation du filet de protection sociale.
Oui, alors là, les réflexions sont de deux ordres, celle du type trou dans la raquette, on va dire, ou dans l'épuisette sociale, qui déplore plus de 4 millions de travailleurs laissés sans protection, auto-entrepreneurs, première victime de la crise sanitaire, selon l'économiste Philippe Askenazi, ou alors les extras en contrat à durée déterminée d'usage, qui eux aussi payent le prix fort, déplore le sénateur Patrick Kanner, qui demande pour eux une année blanche, comme pour les intermittents, c'est-à-dire l'extension des dispositifs, et puis les interrogations porte aussi sur l'épuisement du système de protection sociale lui-même, incapable, malgré une inflation d'aides ciblées, d'assurer des revenus décents à ceux qui en ont besoin, écrit le sociologue Jean-Claude Barbier dans Le Monde. Décence des revenus, mais aussi cohérence du tissu social, dont s'inquiète sa collègue Johanna Dagorn et la géographe Corinne Luxembourg, remarquant que le déclassement des classes moyennes s'accompagne aussi d'un déchirement social. Allez, disons-le, 70% de l'épargne, le fameux bas de laine du Covid, est détenu par un cinquième des Français seulement, le risque donc une population en cas ou l'explosion sociale.
Chômage, pauvreté, le problème c'est que tout le marché du travail est bouleversé, Xavier.
Oui, c'est même la pire crise de l'accès à l'emploi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dit encore Jean-Claude Barbier. Le Covid l'a révélé, mais elle était latente depuis des années, expliquent les spécialistes du sujet Olivier Giraud et Nadège Vézina dans The Conversation. Au marché du travail flexibilisé correspond en effet dans la vie quotidienne un monde de l'emploi incertain qui toucherait en réalité 20% des travailleurs. De ce point de vue, les choix de l'État n'ont rien arrangé pour adapter la protection sociale à un marché plus précaire. Il a déconnecté les droits sociaux de l'emploi pour les rendre plus individuels. Pente dangereuse qui a tendance à répliquer les inégalités du marché du travail, poursuivent les chercheurs. Et puis, comme les droits sont accordés sur demande et de plus en plus sous condition, elle conduit aussi insidieusement à glisser d'un régime de droit à un régime de la faveur. Alors, État techniquement désengagé ou au contraire trop idéologiquement engagé, ce sont deux manières de voir le même mouvement. Pour Johanna Dagorn, c'est la lecture néolibérale du problème qui considère l'individu comme un entrepreneur et le chômage comme une faute, mais c'est aussi l'effet des lois de décentralisation qui laissent à la charge des départements 3 prestations sociales importantes, dont le RSA. Le gouvernement vient d'ailleurs de conclure un accord avec la Seine-Saint-Denis pour reprendre le financement du RSA en 2022.
Alors, une nouvelle protection sociale est-elle possible ?
Eh bien, certains le souhaitent et il y a plusieurs approches. La CFDT réclame une franche extension du droit à la protection aux travailleurs indépendants avec une assurance perte d'activité, contrôle des délais de paiement des plateformes et du droit syndical. Quant au revenu universel, Tiffaine, j'ai bien vu que vous vouliez me poser la question. Eh bien, il est défendu par certains comme la clé du problème et envisagé par Emmanuel Macron. Mais Jean-Claude Barbier, ce sociologue donc, est sévère. Toutes les expériences ont échoué à assurer un revenu décent, dit-il, et il faut en finir une fois pour toutes avec cette chimère principale, il ajoute, mais c'est déjà un autre débat, peut-être.
Absolument, Xavier, et on a d'ailleurs déjà parlé dans cette émission du revenu universel, il faudra en reparler, c'est un sujet complexe et passionnant. Merci beaucoup, Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'Écho. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'Écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Félix Levaché, à la technique aujourd'hui, Nasser Moussaoui. In the wrong season, in the road, keep your tabs on my flaws. Slow the pace, babe, there's a way that I love. Demain, qui peut revendiquer l'héritage de Keynes? On posera la question à Virginie Monvoisin et Xavier Rago. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.